l'emprise mentale ou psychique, la soumission à un manipulateur ou à un gourou. Pendant longtemps, cela a suscité chez moi incompréhension et incrédulité. Comment peut-on devenir la chose d'autrui, ne plus avoir la force de réagir, de résister à la manipulation ? La plupart du temps, les victimes de manipulation mentale ne se rendent absolument compte de rien. Comme si elles acceptaient leur sort, jusqu'au jour où le déclic se produit. Toujours tard, souvent trop tard, car le mal est déjà fait. Comment les manipulateurs agissent-ils ? En quoi consiste leur force ? Et comment les victimes réussissent-elles parfois à s'en sortir ? Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps d'écouter l'histoire de Sophie. La vie de cette mère de deux enfants bascule après sa rencontre avec François. Un vrai coup de foudre. Il faut dire qu'en apparence, il a tout de l'homme idéal. Je suis Olivier Delacroix, bienvenue dans le podcast « Dans les yeux d'Olivier ».
Il y a 8 ans, Sophie, mariée, deux enfants, s'ennuie dans son couple et tombe alors éperdument amoureuse de François, un notable apparemment bien sous tout rapport. Elle demande le divorce et le couple s'installe avec les deux enfants de Sophie. Mais au fur et à mesure, pendant plus de 6 années de vie commune, cet homme va se métamorphoser. Il va détruire Sophie à petit feu, il va lui faire perdre son travail, ses amis, sa raison. Aujourd'hui, elle se souvient encore de leur première rencontre.
Et j'avoue que je suis tombée sous un charme, mais sans plus rien penser, quoi. J'étais addict de son regard, addict de la façon dont il avait de me parler, addict de son corps, de ses gestes, de ce qu'il représentait. Mm-hmm. J'étais complètement folle amoureuse de lui, oui. Et je pouvais le suivre au bout du monde. Et puis il a un passé terrible d'enfant maltraité. Et en plus, nous sommes tous les deux divorcés. Donc vraiment, j'étais touchée par un parcours sentimental et émotionnel qui était catastrophique. Et j'avais envie de lui apporter ce que moi j'avais reçu de mes parents, c'est-à-dire beaucoup d'amour. Mm-hmm. Et je me suis dit qu'avec beaucoup d'amour, on arriverait toujours à apaiser les gens, en tout cas.
C'est ça qui est assez incroyable. Ouais. C'est que votre métier était d'aider les autres à se reconstruire.
Tout à fait.
Vous parlez d'être devenu progressivement sous influence. Comment est-ce que vous expliquez qu'il ait pu obtenir ce résultat ?
Alors, je l'explique parce que moi, je n'envisage pas que les gens sont mauvais, déjà. Pour moi, les gens sont nécessairement bons. Et en même temps, c'est quelque chose qui se fait de façon très insidieuse, de manière très souterraine, avec aucun témoin.
C'est-à-dire que cet homme soufflait le chaud et le froid en permanence ?
En permanence.
D'accord.
Mais en permanence et dès le début. Et en public, il était très tendre, très touchant, très câlin, très attentionné. Une espèce de douceur dans son regard, dans son attitude, qui ne pouvait pas laisser entendre ou laisser suspecter quoi que ce soit. Par contre, lorsqu'on rentrait à la maison, c'était plus le même homme, c'est-à-dire... Il faisait des reproches constants sur l'infidélité, sur la mavénalité, sur peut-être d'autres choses que je pouvais faire alors que je ne faisais absolument pas. Et il me disait « Mais si, tu sais bien ce que je te reproche ». Et je disais « Non, je ne sais pas, dis-moi, parce que si j'ai quelque chose de concret, je vais essayer d'arranger ça ». Mais il dit « Non, t'as qu'à te souvenir ». Et c'était constamment…
Est-ce que vous avez souvenir des premiers signes de manipulation ?
Les premières manipulations qui me reviennent à mémoire, mais je reste persuadée qu'il y en a eu d'autres en amont, c'était sur une façon de disparaître. C'est-à-dire qu'il avait pris l'habitude de disparaître physiquement. C'est-à-dire, je suis là, rejoins-moi, et il ne venait pas.
Et tout cela pour vous inquiéter ?
Ah ben, oui, non seulement on a l'inquiétude qu'il lui arrive malheur, mais aussi, est-ce que j'ai bien compris ? Parce que lorsque je le retrouvais, je lui disais, mais enfin, tu m'as demandé de me rendre là, j'y étais, pourquoi tu n'y étais pas ? De me répondre, mais je t'ai jamais demandé ça. Mais c'est pas vrai, mais tu perds la tête, ma pauvre fille. Le mot qui lui revenait souvent, tu es déséquilibrée. Tu es déséquilibré, il faut aller te faire soigner, il faut aller voir des psychiatres, il faut te mettre sous médicaments. Il y avait aussi des menaces. Donc, si tu n'es pas gentil, il va t'arriver ça. Si tu n'es pas gentil, je vais devenir très méchant. Je me rappelle de cette phrase. Et il me punissait, par exemple, tu ne viendras pas faire tel voyage avec moi, je t'empêcherai d'aller faire du ski, tu n'as pas le droit de sortir de cette pièce-là.
Tu n'as pas le droit de sortir de cette pièce-là ?
Non. Il m'avait même interdit d'aller à des repas d'amis.
Cet homme vous a-t-il maltraité physiquement ?
Alors, être tapé, touché, non. Pour autant, à la fin de notre relation, il avait pris l'habitude de me menacer de coups, d'envoyer le cou, la main, le pied, et de s'arrêter à quelques centimètres de mon visage et de me dire « Mais tu vois, ça te ferait plaisir, parce que là, au moins, tu aurais la preuve que je suis violent et tu pourrais aller porter plainte. » Voilà.
Pas de traces.
Pas de traces. Il n'y a pas de traces. Les traces, elles sont que dans mon cerveau. Et aujourd'hui, on ne peut pas aller voir dedans. Pas de traces.
Comment est-ce que vous expliquez que vous ayez tenu autant de temps ?
Mes enfants.
Vos enfants ?
Uniquement mes enfants. Qui m'ont soutenu, qui ouais. m'ont jamais jugé. Jamais, jamais jugé, jamais un mot en disant « Mais enfin, qu'est-ce que t'as fait à cause de toi ? T'as perdu ben, tous tes amis, ton travail, ta maison, ton argent.
Car Sophie ne le savait pas, mais elle était tombée dans les griffes de ce que les psys appellent un pervers narcissique. Chantal Paoli-Texier est présidente de l'AJC, Association contre la violence morale intrafamiliale. Et elle nous donne quelques pistes pour comprendre comment des gens comme vous et moi peuvent tomber sous l'emprise d'un proche.
Si on fait un profil de victime, ce sont simplement des êtres qui sont effectivement tournés vers les autres. D'ailleurs, ils ont souvent des métiers tournés vers les autres. Professeurs, instituteurs, infirmières, médecins, avocats, juges.
Ce qui est plutôt curieux.
Ouais, bah non, pas tant que ça. Parce qu'ils sont à l'écoute des autres. Et cette écoute, c'est piégeant aussi. Parce qu'ils vont excuser l'autre, ils vont essayer de le comprendre, ils vont essayer de le réparer. Contrairement à ce qu'on peut penser, et ça c'est un mythe que je tiens à battre en brèche, c'est pas la victime, la femme fragile, vulnérable, sur laquelle on va mettre le grappin parce que justement elle est fragile. Non, non, au contraire. Les vrais prédateurs, ils vont s'intéresser à des femmes qui ont du répondant. Parce que c'est bien plus intéressant d'avoir à briser quelqu'un comme ça que d'avoir quelqu'un qui est déjà...
Alors comment expliquez-vous que cet homme ait pu préserver son entourage, tous les amis, et que Sophie se retrouve toute seule?
Alors, ces despotes peuvent asseoir leur terrorisme parce que les gens se taisent, se bouchent les oreilles et ne veulent rien voir. Et ça, alors, c'est partout et systématique. Trouver un témoin par rapport à ces formes de violence.
Et à l'époque, justement, les seuls témoins du comportement de cet homme sont les deux enfants de Sophie, qui vivent sous le même toit dans une villa que le couple vient d'acquérir. Marion, la plus grande, se souvient encore des deux visages de cet homme.
Au premier abord, c'est un homme bien, gentil, doux. Et puis, sous le masque, il y a un monstre, quoi. Clairement, un monstre qui est capable de changer d'attitude du tout au tout en une fraction de seconde. Un fou furieux qui crie, qui hurle, qui tape partout, qui tape les chats, qui est menaçant.
Et puis, ça, vous l'avez vu ?
Ça, je l'ai vu. Mais je l'ai entendu et je l'ai vu. Je me rappelle notamment d'une fois, mon beau-père était enfermé dans leur chambre, dans le noir. Et il jouait avec le pistolet de son père, voilà, tout seul dans le noir. Il a passé de 13h à 18h comme ça. Il a hurlé dès qu'on rentrait dans la pièce. Et puis après, quelques heures après, il était attablé avec nous en train de manger, souriant et détendu. Et...
Normalement.
Et c'était que des trucs comme ça.
Est-ce que cet homme, en fait, toute cette manipulation a eu un impact sur la jeune fille que vous êtes ?
Ah ben oui, clairement. Je veux dire, moi maintenant, avant que je fasse confiance à un garçon, je peux vous dire qu'il va en falloir.
Ouais.
Ah oui. Oui.
Même invisible, la manipulation de cet homme risque donc de laisser des traces dans la famille. Mais en tout cas, les propos de Marion corroborent ceux de sa mère. Son frère Romain, qui avait à peine 12 ans à l'époque, a également souffert. Il me donne l'impression d'être là pour protéger sa mère au détriment de sa vie d'adolescent.
Romain, tu as vécu toute cette histoire,
oui.
En fait, aux côtés de ta maman, puisque tu étais tout le temps là, en fait.
C'est ça.
Est-ce que tu as remarqué très vite ce qui se passait entre ta maman et François ?
Non, je n'avais pas remarqué. C'est surtout à partir du moment où on a aménagé dans la villa, où c'est monté en puissance et où je me suis rendu compte de la violence de François. Il criait beaucoup, en fait. Enfin, il criait, en fait, surtout sur ma mère. Mais sans forcément... Je comprenais pas forcément ce qu'il disait, puisqu'il s'enfermait dans la chambre avec elle. Et comme ma chambre était voisine à la leur, j'entendais, mais je comprenais pas forcément. Ça pouvait durer des heures, où il hurlait. Il attendait systématiquement qu'il soit dans la chambre, pour qu'il y ait le moins de personnes témoins.
Tu dis que tu étais inquiet, quand même, à cette époque.
Oui, bah oui. J'étais inquiet de ce qui pouvait se passer après. Parce que comme ça montait tout le temps en puissance, puisqu'au début c'était rare, ensuite ça c'est devenu commun, honnêtement j'ai eu peur qu'un jour soit ma mère se suicide, soit qu'il la tue. Voilà. C'était ma crainte en fait.
Comment on vit à 12 ans avec ce genre de pensée en fait?
Eh ben on se blinde, hein. C'est-à-dire que, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Donc, c'est comme ça.
Tu en parles à des copains ou des copines?
Non. Non, non. Non, il n'y a que très peu de personnes qui sont au courant. Ce n'est pas des choses que j'ai envie de dire à tout le monde. Puis que je n'ai pas non plus envie d'en parler. Mm-hmm. Voilà, c'est tout.
Quel impact ça a eu, tout cela, sur ta vie à toi, d'adolescent?
Bah, c'est sûr que ça m'a fait grandir beaucoup trop vite. J'ai eu une partie de ma jeunesse un peu gâchée. Je dirais 10-12 ans, pas trop vécu.
Ouais.
Là, ça commence à aller mieux. Mais c'est pas non plus extraordinaire. Après, c'est aussi un choix. Hein. C'est-à-dire que sortir, c'est pas ce qui me plaît le plus avec les amis. Hein. Mais c'est vrai que du coup, j'ai eu une vie assez enfermée à cause de lui.
Les enfants de Sophie sont donc les seuls témoins du drame qui se jouait à la maison, il y a encore 2 ans. Et leur témoignage montre comment ces situations peuvent se développer sans que personne n'intervienne. Des faits impalpables, sans traces, sans preuves, et donc difficilement racontables, au risque de ne pas être cru. Car c'est là tout l'art du pervers narcissique. Progressivement, il isole Sophie de ses amis, faisant croire à tout le monde que c'est elle qui est déséquilibrée. Pascal, au départ simple camarade de cours de danse, est l'une des rares à être restée pour soutenir Sophie.
Est-ce que vous avez soupçonné à un moment ce que pouvait vivre Sophie?
Oui. Peut-être même avant qu'elle ne s'en rende compte, oui.
Alors justement, est-ce que vous gardez un souvenir précis de vos premiers soupçons quant à ce qu'elle était en train de vivre?
Bah oui, des textos, une dépendance assez à ce portable lorsqu'elle n'était pas avec son compagnon, donc à la danse. Et elle pouvait arriver de très bonne humeur et puis recevoir un texto alors qu'elle avait qu'à la laisser son téléphone. Hein. Et puis tout à coup, elle était complètement abattue, anéantie parce qu'elle pouvait lire sur son portable.
C'était un ordre de sa part de ne pas quitter le portable en plus?
Ah oui, c'était quelque chose qui s'est instauré dès les premiers jours. C'est-à-dire que j'avais ces textos toutes les heures et auxquels je devais répondre et dire toujours où j'étais, ce que je faisais, avec qui j'étais, quoi. Et après, c'était devenu pareil, une habitude. Donc le portable ne me quittait jamais.
Et ça m'est arrivé de lui dire, mais tu te rends pas compte, tu es comme une enfant battue qui retourne vers son bourreau. Et elle était très surprise que je lui dise ce genre de choses. Elle n'avait pas encore conscience de cette manipulation et de cette emprise. Elle était tellement manipulée qu'elle avait des comportements, excusez-moi, de folle, quoi. Hein. Mais je pense que les gens l'ont laissée à ce moment-là parce qu'ils ont dit, ben, elle n'est pas tranquille, comme on dit chez nous. Hein. Mm-hmm. Elle n'est pas tranquille. Bon, et c'est à ce moment-là qu'elle avait besoin d'aide.
Comment est-ce que vous expliquez que vous soyez une des seules à être restée là et que tous les autres soient restés auprès de François, son ex-compagnon?
Ben, peut-être parce que je ne l'ai pas suffisamment connu dans l'intimité pour être sous son emprise à lui. Mm-hmm. Donc je n'ai cru qu'elle, je n'ai pas eu à le croire lui. Et je ne pouvais pas la laisser comme ça, c'est impensable. C'est impensable. De voir tout le monde la laisser comme ça, je me dis, c'est pas possible.
Mais la torture mentale continue petit à petit. Sophie dépérit, ne mange plus, ne dort plus. Elle ne pèse plus que 38 kilos. Cette femme intelligente et proche des autres n'est plus que l'ombre d'elle-même. Pourtant, il va bien falloir que tout cela s'arrête un jour.
Comment est-ce que vous expliquez que vous ayez tenu autant de temps, que vous soyez resté autant de temps?
Je m'explique pas. En fait, je me l'explique pas rationnellement ou émotionnellement. J'avais plus de capacité d'analyse, plus de capacité d'instinct de survie. J'avais l'impression qu'il était rentré dans mon cerveau, dans mon psychisme, et qu'il était en train de tout détruire, quoi, par petite dose d'explosion. Oui, moi, c'est lobotomisé, c'est le mot que j'emploie. Je peux pas dire autre chose.
Alors, comment avez-vous mis fin à cette relation?
Il n'y a pas un événement pire qu'un autre, si ce n'est ces dernières paroles qu'il m'a eu dites. De toute façon, t'es rien. Tu n'es absolument rien. Tu n'existes même pas. Ça, ce sont ces dernières phrases, qui peut-être sont pires que tout, parce que dire à quelqu'un qu'on n'est rien, c'est vraiment nier son existence. Et en fait, le but, c'était d'arriver à nier que j'avais existé. Et un jour, je lui dis, bon, ben là, faut partir, parce que tu vas mourir, tu vas faire ou une tentative de suicide, ou tu vas...
Vous êtes passé par cette étape d'avoir voulu disparaître.
Oui. Ben oui, on veut disparaître, parce qu'il y a sa violence à lui, puis il y a la violence de tous les autres qui vous croient pas, cette complicité silencieuse qui vous enfonce, la justice qui vous entend pas.
La justice ne vous entend pas. Vous avez essayé de porter plainte contre cet homme?
J'ai fait toutes les démarches nécessaires pour tout ce qui m'arrivait. J'ai fait des mains courantes, j'ai fait des dépôts de plainte. On m'a dit d'interpeller le procureur de la République. J'ai interpellé le procureur de la République. On m'a dit d'écrire au président de la République. J'ai écrit au président de la République. Du coup, j'ai été pris en charge par le préfet. J'ai été pris en charge par le commandant de la gendarmerie du département. Voilà, tous sont conscients de ce que je vis. Tous reconnaissent. Tout se trouve scandaleux ce que j'ai vécu. C'est tout. Ça s'arrête là. Parce qu'on m'a simplement dit qu'il n'y avait rien de caractérisé. C'est le mot employé.
Ce qui veut dire?
Ce qui veut dire qu'on ne fait rien contre la personne. Il n'y a pas de preuve. Ça veut dire qu'il ne sera pas reconnu coupable. Ça veut dire que je ne serai pas reconnue dans mon statut de victime. Et ça, c'est très violent aussi.
Un vide juridique qui fait mal aux victimes de violences psychologiques. Même si Chantal a aidé Sophie à verbaliser sa douleur et continue à la soutenir dans sa reconstruction, elle connaît bien ce problème.
Dans l'histoire qui concerne Sophie. Rien n'a abouti au niveau de la justice.
C'est vrai que la loi à l'heure actuelle, malgré la loi du 9 juillet 2010 qui a mis en place un délit de violence psychologique et un délit de harcèlement, ne permet pas de poursuivre des personnages qui ont commis des violences qui sont invisibles et insidieuses. Voilà. Parce que ça laisse pas de traces.
Oui, parce que c'est très difficile à prouver.
Exactement. C'est très compliqué parce que, en fait, par exemple, ils échappent à toutes les expertises. Ils savent très très bien faire, ils savent très bien passer à travers les gouttes d'eau, hein, et c'est pas évident. Le problème, c'est que dans ces cas de figure-là, il faut prendre la personne sur le fait. Vous vous rendez compte que c'est carrément impossible, donc automatiquement, effectivement, les plaintes ne marchent pas.
Et cela, Sophie le sait très bien. Même si elle désire passer au plus vite à autre chose, elle reste financièrement et administrativement liée à cet homme. Elle a tenu absolument à témoigner, car selon elle, c'est le seul moyen d'être entendue là où la justice et les proches ne l'ont pas cru.
Je pense que si je fais ce témoignage, c'est pour que la société me reconnaisse comme victime. Alors, d'un point de vue juridique, ça semble compromis. Je parle aussi au nom de toutes les femmes violentées, de tous les hommes victimes de femmes perverses qu'il faut qu'ils aillent témoigner. Et puis il y a quelque chose dont on a besoin pour se reconstruire, c'est les excuses. Et moi, ce qui me ferait le plus de bien aujourd'hui, c'est qu'un jour, ils puissent venir et s'excuser. Mais un pervers narcissique n'a pas de compassion, ne se remet jamais en cause. Donc ça, je l'aurai jamais. Et comme à un moment donné, il faut qu'on ait cette reconnaissance pour se reconstruire, oui, le témoignage télévisuel, pour moi, c'est un moyen de le faire. C'est égoïste, mais si en même temps, c'est pour les autres personnes aussi. Pour vaincre la peur, la honte, la culpabilité, enfin, tous ces sentiments négatifs qu'on ne devrait pas avoir, mais que toute victime a parce qu'on est conçu comme ça.
Dans les yeux d'Olivier, le podcast est une production Europe 1 Studio avec Fanny Rask, Clémence Olivier et Kevin Ousty. Pour écouter la prochaine histoire, pour entendre un autre témoignage, je vous propose de nous suivre sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur Deezer ou sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast sur l'application Europe 1. Et on se retrouve évidemment chaque soir du lundi au jeudi à l'antenne d'Europe 1 dans la libre antenne. Alors je vous dis à très bientôt.